Tout d'abord, bonjour à tous et pour être venus à une heure si matinale, au moins pour certains d'entre nous. Et alors, je crois que nous, pour des raisons de caténaire effondré sur une voie ferrée, nous ne pourrons pas faire une discussion finale comme c'était prévu. Et nous allons remplacer, improviser avec la permission de M. Malamud et des autres intervenants. Après chaque communication, donc, nous aurons un temps de questions-réponses. Nous aurons le temps à chaque fois pour faire entre 5 et 10 minutes de questions-réponses, ce qui bouleverse un peu le temps de la marche du programme, mais pas le programme dans son essence. Alors, je me permets évidemment avec un grand plaisir d'annoncer Charles Malamud, que nous n'avons pas à présenter, j'ai été quelque temps son collègue à l'École pratique des hautes études, et après j'ai eu le plaisir de le voir très souvent à l'Institut des études avancées de Nantes, ce qui m'a permis de découvrir par-delà l'œuvre et des déesses de parole, n'est-ce pas, un homme tout aussi passionnant que son œuvre, et j'en profite pour lui souhaiter un bon anniversaire, puisque c'était hier. Il va donc nous parler aujourd'hui du cercle des saisons, le Ritu Mandala, note sur le premier Prapataka du Taittiriya Aranyaka. Voilà, je vais le laisser. L'horloge du Collège de France étant ce qu'elle est, nous avons une demi-heure, mais j'essaierai de vous dire l'heure qu'il est, parce que vous ne le saurez pas en regardant l'horloge.
Louis Renou, dans l'année universitaire 1965-1966, qui fut aussi la dernière année de sa vie, s'est beaucoup intéressé au Taittiriya Aranyaka, et plus précisément au premier Prapataka. Il lui a consacré une partie de son séminaire des hautes études. Et on trouvera des marques de cet intérêt dans les deux petite page de notes additionnelles au volume 15 des études védiques et paninéennes, paru en 1966. Il s'agit toujours de remarques très brèves, de l'ordre d'une ligne, souvent en style télégraphique, toujours de caractère philologique. Elles portent sur le sens ou la forme d'un mot, la variante que présente Taittiriya Aranyaka par rapport à la forme originale du mantra, telle qu'elle apparaît dans l'hymne rigvédique que Renou est en train de traduire ou de commenter. Ces notes, est-il besoin de le dire, apportent toujours du nouveau, souvent un nouveau de grande portée. Elles consistent quelquefois en références bibliographiques. Renou se tenait au courant de tout ce qui se publiait en Inde et... Ah bon. Oui. Je continue. Bien. Ces notes consistent quelquefois en références bibliographiques, disais-je. Renou se tenait au courant de tout ce qui se publiait en Inde et en Occident, et ces notes ont l'avantage d'attirer parfois notre attention, notamment sur les Beiträge zur Vedischen Lexikographie d'Ariendra Sharma, paru à Munich en 1959-1960 dans la collection REMA, où sont étudiées nombre de formes difficiles de ce texte que je vais vous présenter, de ce premier Prapataka du Taittiriya Aranyaka. On peut déplorer évidemment que Renou n'ait pas eu le temps, mais en aurait-il eu le désir, de consacrer une étude d'ensemble à la forme et au contenu de ce texte. En effet, un des thèmes majeurs de cette Shruti est la description des saisons, prélude à d'amples développements cosmologiques. Or, Louis Renou avait consacré à ce motif deux articles importants, notamment son étude sur le terme « ritu » en védique, paru dans « Archiv Orientalni » de Prague en 1950. Sans se référer, sauf une indication ponctuelle, au Taittiriya Aranyaka. Que nous dit donc ce premier livre de cet Aranyaka, de ce livre forestier? Eh bien, il nous parle des eaux multiples et de l'eau, des saisons qui fragmentent l'année et la constituent. J'y reviendrai dans un instant. D'abord, quelques éclaircissements sur le terme « Ritu Mandala » que j'ai pris pour titre de cet exposé. Le terme « Ritu Mandala » dans la littérature védique n'apparaît que dans notre texte, précisément, dans Taittiriya Aranyaka 1.6.3, au pluriel, et dans le Kalpa afférent, Baudayana Shrauta Sutra 19.10.14, toujours au pluriel, dans le Brahmana en prose, qui clôt une séquence de 23 strophes originales, dans leur quasi-totalité, consacrée aux saisons. Sont appelés Ritu Mandala, au pluriel, je le répète, les trois dernières strophes de cette suite de 23. Strophes consacrées à la saison des frimas, Shishira. On peut en conclure que le terme Ritu Mandala ne décrit pas la ronde des saisons, mais le cercle que constitue chacune d'elles, ou plutôt certaines d'entre elles, qui portent en quelque manière la marque d'un cercle. Telle est du moins l'opinion de Kalanth, dont on verra qu'elle présente des difficultés. Un des traits originaux de ces strophes, celles qui sont désignées comme Ritu Mandala, aussi bien que les autres, est que les saisons sont décrites ou présentées comme des personnages. La saison est elle-même personnifiée, ou bien elle est représentée sous la figure d'un homme tel qu'il se comporte de façon typique dans telle saison donnée. Il faut, avec les commentateurs, Bhattabhaskara Mishra et Sayana, distinguer entre les strophes qui s'adressent à la saison, à la deuxième personne, comment s'adresse à la divinité, et les strophes qui en parlent, à la troisième personne. Il arrive aussi que ce soit la saison elle-même qui parle. Mais surtout, ce qui frappe dans ces sortes de portraits des saisons ou de l'homme en saison, c'est l'importance attribuée à ce que l'on pourrait appeler la situation ophtalmologique. On a mal aux yeux ou on a cessé d'avoir mal aux yeux. Ainsi, le printemps, en 1.3.5, et Jaradaksha, aux yeux vieillis. Et cette énigmatique description de la saison des pluies, ou plutôt du personnage masculin qui incarne l'homme de la saison des pluies, 1.3.10, sans mal, il est comme s'il avait mal aux yeux. Il apparaît jaune, ou gonflé, pita. Il ne fait pas trembler de froid, dirait-on. Il semble qu'il a les yeux qui pleurent. Rurudaksha iva drishyate. Les pluies encore. 1.3.11. Il réjouit les êtres. Ses deux yeux brûlent et se fatiguent. L'automne maintenant. 1.4.1.1. De l'homme qui s'est sorti d'une maladie des yeux, les pupilles sont apaisées. Il met du collyre. Et il n'y a pas d'obscurité, de non-perception. L'hiver. 1.4.1. Il n'est pas irrité, mais les yeux de l'hiver sont rouges comme d'un homme qui s'apprête au combat, qu'on le sache, comme d'un archer qui lance des regards de ses yeux comme des traits. Vous voyez que cela tranche beaucoup sur les descriptions des saisons dans le Kavya. C'est à chaque fois tout à fait énigmatique. On comprend un peu grâce aux commentaires, mais le sens général tout de même nous échappe. Voici maintenant les trois strophes appelées proprement Ritu Mandala. 1. La saison des frimas se montre avec le regard fixé tout en haut, non de côté. Ni sa forme, ni ses vêtements, ni son œil ne se laissent voir. 2. Deux êtres ne se font pas de mal l'un à l'autre. C'est la marque divine de ce qui est en cette saison. Il est rouge dans son œil, sa tête, au moment du lever du soleil, est bariolée. Troisième strophe. Tu fais le fléchissement du genou, l'anjali tourné vers le bas. Que cela soit tant attentif à cette parole. Commentaire de Sayana. Tous les êtres vivants tournent leurs paumes vers le bas pour protéger le feu, car il fait très froid. Ils font que leurs genoux touchent terre, ils s'agenouillent pour donner de la chaleur aux diverses parties de leur corps, ventre, etc. Commentaire de Bhatta Bhaskara Mishra. On s'adresse à la saison des frimas. En cette saison, les hommes font ce geste. Ce geste est assigné métaphoriquement, ou upacharyate, à la saison elle-même. Voici maintenant le Brahmana en prose, donc, qui clôt cette série. Toutes les saisons s'inclinent devant lui, car il est le faiseur de limites, Maryada Karatvat. Il gagne la prééminence, Purodham, le Brahman qui sait ainsi. L'année, en vérité, Sakalu Samvatsara, transporte jusqu'à Indra tous ses désirs avec ses chefs d'armée, Senanibhi Saha. Selon le commentaire, le faiseur de limites, Maryada Kara, c'est celui qui connaît l'objet rituel que l'on est en train de construire et qui symbolise l'année en tant qu'elle est articulée en saisons qui s'enchaînent sans que jamais une saison n'empiète sur celle qui la suit. Sur cet objet rituel, je reviendrai dans un instant, il a la raison d'être même de tout ce premier livre du Taittiriya Aranyaka. Mais auparavant, il me faut revenir en arrière à la strophe 1-2-1. Je vous la lis d'abord en sanskrit. Ça n'est pas difficile, c'est pour une fois. Smritihi pratyaksham aitihyam anumanas chatushtayam etair aditya mandalam sarvair eva vidasyate. Tradition portée par la mémoire, smriti. Évidence immédiate, il faut comprendre, de la révélation védique. Ceci, c'est pour Pratyaksham. Narration, itihasa. Pratique des savants, raisonnement, c'est anumanas. Quel est le groupe des quatre sources de connaissances? Par tous ces éléments, le soleil recevra sa forme. Cette strophe a été étudiée par Alfred Bloch dans son article des mélanges renous, justement, qui traite de la chronologie et de ce que la présence de cette énumération des moyens de connaissance valides nous dit de la date du Taittiriya Aranyaka, ou du moins de ce passage. Quoi qu'il en soit, les deux commentaires s'accordent pour dire que l'année, en tant qu'elle est constituée de périodes de temps qui se succèdent, les saisons notamment, en tant aussi qu'elle est manifestée par la course du soleil, est ce que l'on perçoit par les moyens de connaissance énumérés dans cette strophe. Mais il y a un autre temps, sans partie, ou bien un être qui transcende le temps, un adisattva, qui n'est perceptible que par ceux qui ont accès à l'intuition directe, pratyaksha, de ce que fait voir le Veda. Telle est du moins l'interprétation des deux commentateurs. Les strophes suivantes, toujours si on en croit les commentaires, enseignent ce qui fait obstacle à la perception de cette année pure et sans partie. C'est qu'il y a un patara, une moisissure jaune qui enveloppe ce temps comme un globe oculaire, encore l'ophtalmo, et le dérobe à la vue. Kuiper a étudié cela dans son livre sur Varuna. Comme vous voyez, toujours cette obsession ophtalmique. L'idée du temps insécable, au-delà du temps empirique, amorcée ici, sera développée dans la suite du texte. Dans la première partie du texte, le motif central est l'analogie entre l'année et ses composantes, les saisons d'une part, et le fleuve et ses affluents d'autre part. L'analogie se développe sur deux strophes, 3 et 4, du deuxième Anuvaka. Je traduis, je lis la traduction, ce sont des strophes très, très souvent citées. C'est comme une rivière, Nadi, de même qu'elle jaillit d'une origine impérissable, et vers elle confluent les rivières, elle, étant large, ne s'abolit pas, na nivartate. De même, les temps, kala au pluriel, qui ont des extensions diverses, contenues dans l'année, tous répartis en temps menus et grands, confluent vers elle cette année. Les eaux permettent de comprendre l'année, mais ce qui est le sujet principal, c'est bien l'eau ou encore les eaux divisibles et diverses et formant cependant un élément unique. Voici la strophe d'ouverture, la première Mahanamni, de ce tout premier Prapataka, de tout ce premier Prapataka, après les Shanti et les strophes de... les strophes de bon augure. J'ai gagné toutes les eaux d'entre les eaux. Ou peut-être, j'ai gagné la masse d'eau, Jalam, et toutes les eaux, celles qui viennent de ce lieu encore, d'ici, de là-haut. Agni et Vayu et Surya, je les ai consacrés ensemble, j'y ai réussi. Ce qui s'annonce ainsi, c'est toute la séquence des mantras, dont j'ai cité quelques-uns, ceux qui avaient trait aux saisons, et qui ont pour raison d'être, ici, d'accompagner la mise en place de briques qui, dûment disposées en couches, sont censées constituer un autel du feu, un agnichayana, littéralement un empilement de feu. C'est là l'objet rituel dont je parlais il y a un instant, et dont les commentaires nous disent que celui qui le connaît est un faiseur de limites, de maryada. L'autel du feu appelé Aruna Ketuka, c'est lui dont il s'agit, est appelé ainsi du nom de celui qui en a eu la révélation. Alors nous avons ici deux choses, des maryada, c'est-à-dire des périodisations du temps de l'année qui permettent à l'année de se constituer et qui correspond à la fragmentation des eaux et en même temps l'idée d'un être qui par la célébration du rite qui nécessite la construction du foyer Aruna Ketuka parvient à la connaissance du temps absolu et en même temps de l'eau comme masse indivisible. La forme canonique de ce rituel très complexe, qu'est la construction de l'autel du feu dans sa forme canonique, est exposée, comme on le sait, en détail dans la Taittiriya Samhita et aussi dans le Shatapatha Brahmana. Je rappelle que dans sa version canonique, la construction appelée empilement du feu, Agnichiti, consiste en 5 couches de briques superposées et disposées de telle sorte que le tout, vu d'en haut, figure un oiseau aux ailes déployées. Mais à côté de cette forme canonique, il existe des formes spéciales, plus petites, qui sont enseignées dans un ensemble de textes appelés Kata, lequel est constitué de la partie finale du Taittiriya Brahmana, 3, 10, 2, 12, et des deux premiers Prapataka du Taittiriya Aranyaka. Une question, philologique en quelque manière, est de savoir pourquoi il y a cette fracture dans l'ensemble Kata. Pourquoi 4 variantes de l'Agnichayana réduit et spécial sont enseignées dans le Taittiriya Brahmana, tandis que la 5e, est enseigné dans l'Aranyaka de cette même branche du Yajurveda noir. Paul-Émile Dumont a traduit et commenté très soigneusement la partie Taittiriya Brahmana de cet ensemble kata, c'est-à-dire les quatre feux, ou plutôt empilements, Chayana, appelés Savitra, Nachiketa, Chaturhotra et Vaishvasrija. Ces variantes diffèrent grandement du prototype. La surface couverte par cet édifice, à chaque fois, est plus petite. La forme d'ensemble est un cercle. Les éléments constitutifs sont moins nombreux. La matière aussi est différente. En guise de briques d'argile, on a de petits morceaux d'or ou ce qui en tient lieu. Mais ce qui est constant, c'est que les briques ou ce qui en tient lieu sont toujours des éléments solides et discrets qui conservent leur individualité et sont le point d'appui visible et stable des mantras que l'on récite quand on les met en place. Qu'en est-il de la variante Aruna Ketuka qui est enseignée dans le Taittiriya Aranyaka? Eh bien, les briques ici sont des briques d'eau, ab-ishtaka, des quantités d'eau que l'on verse dans une fosse. La procédure kalpa, prayoga, est décrite, au moins dans ses grandes lignes, dans le corps même de la Aranyaka en 1.22 et suivante. Mais d'abord, il faut rappeler les observances relatives à l'eau pendant qu'on accomplit ce rite. Ne pas courir quand il pleut, c'est-à-dire ne pas se hâter de quitter cette ambroisie qu'est l'eau qui tombe. Ne pas uriner ni déféquer dans l'eau. Ne pas se baigner nu parce que l'eau, lorsque l'on est en train de célébrer ce rituel de la constitution du foyer Aruna Ketuka, cette eau est comme brûlante. Alors, nous avons des couches d'eau, si bizarre que cela paraisse, chuti, mais on comprend de quoi il s'agit. Des couches d'eau sont séparées par des couches de feuilles de lotus. C'est-à-dire que j'ai oublié de dire que, pour commencer, on creuse une fosse qui est profonde assez pour qu'on y mette la jambe jusqu'au genou. Et dans cette fosse, on fait des étagements d'eau, si je puis dire, séparés par des couches de feuilles de lotus, de tiges de lotus entier. Et plusieurs sortes d'eau doivent doivent entrer dans la composition de ces couches d'eau, justement, que séparent les couches de lotus, à savoir des eaux stagnantes, des eaux courantes, des eaux qui sont conservées dans des citernes, et toutes les eaux de pluie, j'ai dit, et finalement toutes les eaux de cette masse d'eau Jala, dans sa variété. Et au sommet de cet étagement de cinq couches d'eau, Panchatitika, séparées par des couches de lotus, sommet constituant une sorte de plateforme, vihaya, sur laquelle on installe le feu proprement dit, le feu de flamme, après qu'on l'a fait venir selon le rituel de l'Agni Pranayana. C'est alors, semble-t-il, que tout autour de ce feu, allumé sur cette plateforme, et donc flottant sur ces empilements, ces étagements d'eau, on met en place, c'est-à-dire que l'on verse les ab-ishtaka, les briques d'eau, qui sont en fait des poignées d'eau que l'on jette. Ces quantités d'eau, nous dit le texte, s'accouplent avec le feu, font avec lui des mitouya, terme, notons-le au passage, qui est un apax, mentionné dans aucun dictionnaire, pas même en VRI. Et sur lequel pourtant renoue à une note en Études védiques et panéennes 16, page 116. Ces briques d'eau ont une individualité spatiale, un contour, jusqu'au moment où on les met en place, c'est-à-dire où on les verse. Autrement dit, leur individualité tient tout entière dans le mantra qui leur est affecté. On verse des poignées d'eau, Hastagraham Abhishtakan Upadadati. Il se peut qu'avant d'être versées, ces poignées d'eau aient été contenues dans des vases et les vases contenant l'eau destinés aux saisons aient été distingués des autres par une marque en forme de cercle, ce qui justifierait l'hypothèse de Kaland quant au sens de Ritu Mandala, ce serait un composé possessif adjectif qualifiant les eaux contenues dans un récipient portant comme signe distinctif un cercle signifiant saison. Mais cela reste une conjecture. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que, quel que soit le contenant préalable de l'eau, au moment d'être versée, ces quantités d'eau tiennent dans la main et sont immédiatement noyées, c'est le cas de le dire, dans la masse de l'eau qui les reçoit. On comprend dans ces conditions que Sayana déclare que ces briques ne sont briques que par un effort de pensée, buddhi. Abrupa ishtaka abhishtaka na atra ishtaka mrid adina nishpadaniya nishpadananiya kimtu apa eva ishtaka buddhya upadeya ityartha. C'est la buddhi. On comprend aussi que soit proclamée dans le corps même du texte l'autonomie de ce feu Aruna Ketuka par rapport aux autres feux de la série Kata à laquelle pourtant il appartient. Cette intervention de la Bouddhi dans la construction du rite est, me semble-t-il, ce qui explique la ligne de partage ici entre le Brahmana et la Ranyaka. On a un feu qui est constitué d'éléments lesquels n'existent, pour ainsi dire, en tant qu'éléments, justement, que par un effort de pensée. Alors, est-ce qu'il me reste 5 minutes ?
5 minutes.
Eh bien, peut-on trouver des analogues dans le rituel védique à ces éléments qui n'ont d'individualité que au moment où ils sont manipulés, dont l'individualité est constituée par le geste qui les entoure? Eh bien, j'ai pensé au rituel que l'on appelle le Vatahoma, c'est-à-dire l'offrande de vent. Ça n'est pas un rituel propre à ces textes, tout de même en quelque manière marginaux que sont les Aranyaka. Il figure au contraire dans le rituel le plus normal, dans le rituel soumique célébré autour et sur l'empilement du feu dans sa version classique. Mais il y a un moment où l'advaryu doit puiser de l'air, c'est-à-dire faire le geste de recueillir de l'air, dans les trois directions, sauf l'est, et jeter en quelque sorte comme une offrande de l'air dans l'atmosphère qui entoure immédiatement l'édifice de briques. Et il est dit qu'il s'agit de faire une offrande d'air pour faire intervenir le monde extérieur dans ce cosmos fermé qu'est l'autel du feu. Et c'est ici, bien sûr, une marque de ce souci constant des ritualistes, tout au moins des ritualistes des Shraddha Sutra, que de faire intervenir l'extérieur, de faire que l'intérieur, plus exactement l'intérieur construit, est un échantillon du monde extérieur. Toute la mise en place du terrain du sacrifice est marquée par ce type d'effort. Alors, nous avons donc ce Vata Homa, nous avons des offrandes qui sont des poignées d'air. Et bien entendu, l'air ainsi recueilli se confond immédiatement avec l'air ambiant, mais y a-t-il pour autant une analogie avec les Abhishtaka ? Je ne crois pas, parce que ici il s'agit d'une offrande qui est nécessairement destinée à être absorbée. Tandis que les briques d'eau sont destinées à constituer une structure, n'est-ce pas ? Ils ne disparaissent pas. Elles sont une structure, mais dont les éléments, dont les maillons, si je puis dire, disparaissent, dont les limites internes, disparaissent au moment même où on les met en place. Voilà donc l'analogie partielle que je voulais vous proposer. D'autre part, deux minutes cette fois, d'autre part, je me suis enquis de la postérité de ce premier Prapataka du Taittiriya Aranyaka, qui est un texte difficile, paradoxal et, je dois vous le dire, extrêmement intéressant, très poétique par moments. Eh bien, la postérité, alors, eh bien, il y a deux choses. D'une part, nous avons le commentaire de Lakshmidhara au Sandarya Lahari. Alors, ce commentaire de Lakshmidhara est une interprétation détaillée de Taittiriya Aranyaka 1.27 et 31. Alors, je n'ai pas du tout le temps de vous décortiquer la chose, mais c'est un exercice de la part de Lakshmidhara tout à fait extraordinaire, de voir comment il prend les éléments du rituel védique et les transfigure en constituant du rite tantrique et plus précisément en constituant de la figure géométrique, n'est-ce pas, sur laquelle il va constituer tout son système. Et alors, il y a des petites déformations, c'est-à-dire qu'il transforme un singulier en pluriel, mais c'est très peu de choses. Tout ce qu'il faudrait vraiment étudier en détail, je n'ai pas le temps de le faire, c'est vraiment cette série de petits coups de force qui, en fait, laisse intacte la structure générale du texte et aboutit à une construction, évidemment, tout à fait sui generis. D'autre part, il y a dans le Taittiriya Aranyaka un passage qui est, enfin une strophe plus exactement, qui est citée en relation avec ce qui est exposé de l'adisattva, de cet être à la connaissance duquel on parvient grâce à la célébration de ce sacrifice, cet être tout à fait transcendant, qui est au-delà du temps fragmentable. Alors, ce texte comporte une sorte d'illustration qui dit ceci. C'est un passage bien connu qui est, je crois, cité maintes fois. Un aveugle a trouvé un collier. Un homme privé de doigts l'a saisi. Un homme sans cou l'a revêtu. Un homme sans langue en a chanté les louanges. Série de paradoxes. Qui est interprétée par Sayana d'abord comme désignant cet être supérieur à toutes les déterminations. C'est-à-dire que les impossibilités qui sont ici énumérées, ne valent pas pour lui. On ne peut pas dire qu'il est en possession d'un joyau, on ne peut pas dire qu'il a des mains, qu'il a un doigt, qu'il a un cou. Non, il n'a rien de tout ça. Et cependant, il fait tout ce que l'on peut imaginer avec cela. Donc c'est une manière de désigner cet être qui est au-delà des limitations et qui peut faire tout alors qu'il n'est et qu'il n'a rien. Une autre interprétation différente qui est proposée par Bhatta Bhaskara Mishra et qui est reprise dans le passage que je vais vous citer, consiste à dire lorsque l'on atteint cet état d'absolu, eh bien, les limitations diverses, les imperfections, sont aussi impossibles que les impossibilités énumérées ici. Vous comprenez la différence ? On ne peut pas imaginer un monde qui serait coextensif à cet absolu, dans lequel il y aurait des actes relatifs, disons, des actes limités. C'est impossible. Et donc, c'est cette deuxième solution qui est adoptée dans un texte qui n'est rien moins que la partie finale, le paragraphe pas tout à fait final, mais quasi final, du Yoga Bhashya, Ad Yoga Sutra de Patanjali. Voilà, je vous remercie. Thank you.